ce matin, nous allons parler d'une violence cachée et pour cause. Elle se produit dans des endroits entièrement fermés, isolés, où règne la loi du silence. Il s'agit des prisons. Et cette violence, c'est celle de surveillants qui s'en prennent à des détenus, un sujet méconnu. Il n'existe aucune étude officielle. L'Observatoire international des prisons a enquêté. Bonjour Cécile Marcel.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'OIP. Votre rapport s'appelle « Omerta, opacité, impunité ». Ça plante bien le décor. Ça a été une enquête difficile ?
Oui, ça a été une enquête difficile à mener parce que, comme vous venez de le dire, c'est un sujet tabou. Donc c'est extrêmement difficile de faire parler les gens sur cette réalité. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées, nous avons mené à peu près 100 entretiens avec l'ensemble des acteurs pénitentiaires. Alors des anciens détenus, des proches de détenus, mais aussi beaucoup de surveillants de prison, des directeurs pénitentiaires, des soignants, des avocats, des magistrats. Et l'ensemble des acteurs que nous avons rencontrés reconnaissent que ces violences existent. Elle le déplore pour l'essentiel, hein, parce qu'on parle de l'effet d'une minorité de surveillants. Mais dès lors qu'il s'agit d'en parler à visage découvert, eh ben les gens ont peur. Et donc il a fallu lever cette omerta, protéger nos sources en fait. Et c'est pour ça qu'on a fait un rapport qui est entièrement anonymisé, mais qui permet vraiment de comprendre, décrypter ces rouages qui permettent à ces violences de se perpétuer et puis faire des propositions pour sortir de ce déni.
Et c'est vrai qu'on parle plus souvent de la violence qui est dans l'autre sens, des détenus envers les surveillants.
Oui, c'est celle qui est le plus médiatisée. Il s'agit évidemment pas ici de nier l'existence de ces violences. Les violences pénitentiaires, c'est une réalité. Elles sont nombreuses. Elles émanent aussi des personnes détenues. La plupart du temps, ces violences s'alimentent les unes des autres. Donc, il s'agissait vraiment pas pour nous de mettre dos à dos.
On hiérarchise pas.
Ces violences, mais juste de jeter un coup de projecteur sur celles qui sont méconnues et dont on ne parle jamais et qui sont dangereuses aussi parce qu'elles alimentent les violences en général.
Alors, je le disais, il n'y a pas de statistiques ou d'études officielles sur la question. Du coup, vous avez reçu quand même beaucoup de signalements. Vous l'évaluez à vous donnez quelle importance justement à cette violence ? C'est vraiment de l'ordre de l'exception ou c'est quand même assez fréquent ?
Alors, c'est très difficile à mesurer puisque par définition, il n'existe pas de statistiques et puis qu'elles ont lieu à l'abri des regards. Mais ce qui nous a alerté, c'est que nous on reçoit en moyenne 2 signalements par semaine. Alors, quand on parle de signalements, c'est des récits de détenus ou de proches qui nous alertent sur les violences qu'ils ont reçues ou que leurs proches ont reçues. C'est très difficile de vérifier l'exactitude de ces faits, mais 2 signalements par semaine en 2 ans, c'est à peu près 200 signalements. C'est déjà un indicateur de la récurrence de ces violences et c'est probablement que la partie visible de l'iceberg puisque la plupart de ces violences ne sont pas dénoncées.
Pourquoi ils ne les dénoncent pas ?
Ils ne les dénoncent pas parce que déjà pour les personnes détenues qui sont victimes de violences, les dénoncer c'est s'exposer à des risques. Ils sont dépendants dans leur quotidien et pour leur sécurité des surveillants. Le corps des surveillants est un corps extrêmement solidaire, soudé, et donc dès lors qu'on dénonce l'un d'entre eux, parce qu'il ne faut pas croire que l'ensemble des surveillants est partie prenante, hein, c'est une minorité d'agents qui sont coupables de ces violences, mais il y a une espèce de loi du silence qui fait qu'on protège ses collègues et que le détenu qui dénoncerait ces violences s'expose à des pressions, à des intimidations, à des représailles. Alors ça peut être juste, on n'ouvre pas les portes pour aller à la douche, ou pas de parloir aujourd'hui, ou ça peut être des pressions plus fortes et des représailles qui vont jusqu'à des violences.
Et il arrive que ce soit certains surveillants qui dénoncent leurs collègues ?
Alors ça aussi c'est très rare parce que cette loi du silence elle pèse sur l'ensemble des surveillants. On parle de risque de représailles pour les détenus, mais pour un surveillant qui dénoncerait ses collègues, c'est aussi une mise à l'écart du groupe. Et ce groupe, il est extrêmement important parce qu'eux aussi dépendent des uns des autres pour leur sécurité. Ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble. C'est une communauté extrêmement forte, alimentée par des syndicats pénitentiaires qui sont extrêmement puissants aussi. Et celui qui se désolidarise du groupe, il s'expose à une mise à l'écart. Et là aussi, ça peut être des intimidations, des pressions et un quotidien qui est bousculé et qui a poussé certains jusqu'à la démission.
Et cette violence, elle s'exerce dans toutes les prisons, maisons d'arrêt, centrales, où il y a des établissements qui sont plus marqués que d'autres ?
Alors, l'opacité fait que c'est très difficile à mesurer.
Oui, j'imagine.
Mais évidemment, elle dépend des conditions de détention, des conditions de vie en prison et des conditions de travail des personnels aussi. Plus les conditions de détention sont dégradées, plus les conditions de travail des personnels sont compliquées, plus les tensions et les interactions risquent de dégénérer en violence. Et donc, c'est dans les établissements surpeuplés, dans les établissements où il y a un déficit de surveillants, où il y a vraisemblablement le plus de violence, et donc davantage dans les maisons d'arrêt que dans les maisons centrales ou dans les centres de détention, où la détention est en général plus apaisée, ne serait-ce que parce qu'il y a un numerus clausus dans ces établissements.
Oui, la surpopulation est un facteur parmi d'autres. Est-ce que vous avez trouvé d'autres explications? Qu'est-ce qui pousse les surveillants à cette violence?
Alors, les conditions de travail, hein, évidemment, c'est un métier qui est très peu valorisé aussi. C'est un métier où les surveillants disent qu'ils manquent de reconnaissance à la fois de la part de la société et de la part de leur hiérarchie. Ils sont très seuls, ils sont facilement...
C'est un métier honteux ?
Poussé à honteux, je sais pas, c'est un monsieur difficile certainement, qui manque de reconnaissance ou qui manque de formation aussi. Il y a un gros problème de formation. Les surveillants sont formés 4 mois actuellement à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Alors, les violences sont abordées dans le cas des formations, mais en 4 mois, il y a 4 mois de formation, 2 mois sur le terrain, donc 2 mois à l'école. Quand on aborde le sujet des violences et comment réagir, comment rester stoïque,
voilà.
Ouais. C'est en 3 heures, donc on a à peine le temps d'aborder la question, on n'a pas le temps d'entrer en pratique. Ce qui revient aussi régulièrement dans les facteurs de violence, c'est le nombre de personnes incarcérées pour des problèmes psychiques. On l'évalue à peu près un tiers de la, avec des problèmes psychiques, pas pour des problèmes psychiques, pardon, à un tiers de la population carcérale. Donc c'est très difficile de savoir comment réagir face à ces personnes. Ça peut partir très vite. Et là encore, les personnels pénitentiaires sont pas préparés à ces missions.
Donc globalement, ce sont quoi, des surveillants qui n'en peuvent plus?
C'est le gros des violences, c'est vraiment dans le cadre d'interactions qui dégénèrent avec des surveillants qui n'en peuvent plus. Après, on a aussi répertorié un certain nombre de violences qui sont à froid, où il y a des représailles, des mesures de rétorsion, il y a un comportement qui n'a pas plu, et le soir, on organise une expédition punitive. On a aussi répertorié des violences qui sont des violences plus cachées, qui sont des violences déléguées. Elles ne sont pas commises par des personnels de surveillance, mais elles sont commises par des détenus, mais à l'instigation de personnels de surveillance.
Et on parle de violence depuis le début, mais est-ce qu'on peut la qualifier? Sur quoi c'était? C'est des humiliations, des coups, de vrais passages à tabac, il y a de tout?
Alors, nous, on s'est intéressé dans le cadre de notre étude qu'aux violences physiques, donc pas aux brimades, aux intimidations, aux tutoiements, qui sont le lot quotidien de la détention, malheureusement. Donc, on parle de violences physiques, et ça va de gestes qui font mal au moment de l'immobilisation jusqu'à des véritables passages à tabac.
Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça se règle en interne? Quel est le rôle des directeurs? Est-ce qu'ils ferment les yeux? Qui sont plutôt attentifs à ça?
Alors ça dépend vraiment des directeurs, et c'est un des points qu'on met en avant, c'est que la gestion de la direction est extrêmement importante pour envoyer un signal fort aux équipes sur ce qui est toléré et ce qui ne devrait pas l'être. Ce qui est sûr, c'est que pour les directeurs, ce qui joue pour les surveillants joue pour les directeurs aussi. C'est-à-dire que c'est difficile pour eux de se mettre à dos le collectif des surveillants. Ils ont une détention à gérer. Et donc, ça va souvent se jouer par, malheureusement trop souvent en tout cas, se jouer par l'infradisciplinaire. C'est-à-dire plutôt que signaler un comportement quand on en est alerté, au procureur ou à la hiérarchie, eh ben on va bouger les équipes, on va prendre le surveillant qui a un comportement...
On va le changer d'unité.
Voilà, on va le changer. Mais ça, c'est un équilibre compliqué, et souvent, ça c'est pas satisfaisant parce que la personne, elle va aller sévir ailleurs. Malheureusement, ce qu'on met en avant, c'est qu'il faudrait bien sûr que ces faits soient systématiquement signalés et qu'il y ait un signal fort d'impunité qui soit donné.
Et ça arrive quand même que ça passe par la case justice, qu'il y ait un vrai procès?
C'est très rare. C'est très rare, et malheureusement, les plaintes arrivent devant la justice, mais malheureusement, quand elles arrivent devant la justice, souvent elles sont classées sans suite. La justice est confrontée à une difficulté qui est d'étayer les faits, d'obtenir des preuves. Et obtenir des preuves, c'est des images de vidéosurveillance, mais la plupart du temps, ces violences ont lieu à l'abri des images de vidéosurveillance. C'est obtenir des témoins, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, personne ne veut parler. Donc il peut y avoir l'intime conviction, mais finalement, devant l'absence de faits, souvent la justice va classer sans suite.
Cécile Marcel, une dernière question. Au cours de cette enquête, est-ce que vous avez rencontré des gens qui ne comprenaient pas pourquoi vous faisiez ce travail et qui pensent que finalement, comme il s'agit de délinquants, c'est pas bien grave?
Alors, aucun, parce que y compris au sein de l'administration pénitentiaire, les gens avec lesquels nous nous sommes entretenus, ils déplorent ces comportements parce que ça nuit à leur travail, ça nuit au travail de réinsertion qui mène évidemment auprès des détenus. Tolérer cette violence, c'est alimenter la violence des détenus aussi, et c'est évidemment pas faciliter la réinsertion, c'est un signal déplorable qu'on donne.
Merci beaucoup Cécile Marcel, directrice de l'Observatoire international des prisons, pour ce rapport que vous publiez aujourd'hui et qui s'appelle « Omerta, opacité et impunité ». Vous étiez l'invité du 5-7.
Merci.